Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Vous écoutez CJMD, classique rap, hip-hop actuel,
unique au Québec.
Au 96.9, voici Vent fraîcheur.
Hello, hello, la belle gang! Comment ça va en ce beau dimanche matin, 11h02? Bienvenue à l'émission Vente fraîcheur. Gros week-end pour moi! Mais ô combien, comment dirais-je, gratifiant, c'est le mot qui me vient, vraiment. Hier, j'étais du côté de la Guadeloupe, en Beauce, pour animer un atelier, réaliser vos rêves, un atelier conférence que j'appelle réaliser vos rêves pour mourir sans regret. Et il y avait une belle gang de personnes là-bas. C'était un petit groupe intime. On était une douzaine. Il y avait des gens de Lévis, il y avait des gens, bien entendu, de la Guadeloupe, puis d'un petit peu partout. Donnacona, Frédéric, tu étais là, toi aussi, hein? Donc, tu peux en témoigner. Écoutez, ça faisait longtemps que j'avais pas animé un atelier conférence en personne. Ça m'a rappelé que j'aimais ça. Ouais, ça m'a rappelé que j'aimais ça. Ah, s'il vous plaît, à part ça. Fait que ça se pourrait peut-être que... On ne sait pas ce que je vais faire avec ça. Hein? Tu sais, des fois, quand on rallume une petite flamme de même, hein, ça nous permet d'ouvrir aux différentes possibilités qui se présentent à nous autres, que j'ai envie de dire. Ouais. Fait que ça se passe à Québec, le prochain. C'est toi, Frédéric, qui va être là. Hein?
Tout à fait.
Quelle 25, date déjà?
25 mai.
Le 25 mai, tu vas être du côté de?
Donnacona.
À quel endroit? C'est au Doulis? Au Doulis? Au Doulis, Lévis, oui. Aujourd'hui, il y a l'émission, hein, parce que c'est surtout de ça qu'on veut parler. Hein. Mais on en parle parce que ça fait partie de nos vies, ça fait partie de la vie de mes chroniqueurs aussi. Ça se passe à Québec, ça se passe à la Guadeloupe, ça se passe à Sherbrooke, ça se passe à Montréal. Stéphane Boutin cherche des bénévoles. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, là, que vous n'êtes pas en mesure de contacter directement Stéphane, contactez-moi, puis je vous mettrai en lien ensemble. Aujourd'hui, à l'émission, il y a encore bien du stock. On va jaser avec Éric Laliberté et Brigitte Arouni. Eux autres, ils nous font bouger un peu. Hein? Ils nous amènent à vouloir marcher. Ouais, c'est avec notre sac à dos. Ou pas, hein, parce qu'on peut le faire sans sac à dos. Aujourd'hui, ils vont nous parler de randonneurs et pérégrins. Et c'est quand est-ce qu'on passe de un à l'autre? Puis c'est quand est-ce qu'on peut distinguer ça? T'sais, qu'est-ce qu'on fait pour les distinguer? C'est quoi la distinction entre un randonneur puis un pèlerin? Quelqu'un qui va prendre une marche, puis entre quelqu'un qui va faire un pèlerinage, genre. Là. Fait qu'on va parler de ça avec eux autres. Frédéric, toi, tu vas nous parler du budget. Oui. On l'aime de plus en plus, le budget, parce que là, ça fait quelquefois que tu nous en parles.
Oui, aujourd'hui, on va vraiment là, décortiquer comment le faire en toute simplicité.
OK. Ensuite de ça, on va parler un peu de la folie au pouvoir d'agir avec la troupe école de théâtre Les Merveilleuses Têtes Heureuses, dis-je bien. Et nous recevrons le vice-président Luc Vignot. Et à la toute fin, je me suis gardé un temps d'antenne avec vous parce que vous aimez ça, puis moi aussi, hein? On va se le dire. Je vais vous parler de comment se reconstruire après un choc. Donc, on va parler... je vous le dis pas tout de suite. Là, tout de suite, je pense qu'il parle de lui-même. Je vous envoie à l'instant... L'avertissement habituel. Je sais que ce matin, je vais avoir des nouveaux auditeurs, hein, parce que les gens de la Guadeloupe, certains nous l'ont dit, les gens de Lévis également l'ont dit. On va t'écouter demain. Il y en a qui m'ont écrit, une nouvelle auditrice aussi qui m'a écrit, elle a dit « Fais-moi un petit rappel ce matin pour qu'elle puisse écouter. » Donc, salutations à tous et chacun. Je peux pas tous vous nommer, mais c'est toujours un plaisir de recevoir des nouveaux auditeurs, d'avoir de nouveaux auditeurs qui nous ouvrent leurs oreilles, leur cœur, leur maison. Des fois, c'est l'espace dans leur automobile qui nous offre. C'est toujours un immense plaisir, puis je suis toujours en gratitude parce que vous me donnez cette opportunité-là de faire une différence peut-être aujourd'hui dans votre journée. Puis peut-être pas. C'est peut-être pas moi qui vais la faire, mais c'est peut-être un de mes chroniqueurs. Donc, on est très reconnaissant pour ça. Merci d'en parler. Vous êtes de plus en plus nombreux aussi à partager nos podcasts, à aimer la page Vente fraîcheur également. C'est un plaisir. Donc, ceux qui sont nouveaux, j'aime aussi ceux qui sont là depuis très, très longtemps. Là, j'en ai des fidèles, eux autres aussi. Je suis en gratitude de les avoir avec nous. Mais pour ceux qui sont nouveaux, il y a toujours un petit avertissement en début d'émission que je vous mets parce que j'ai pas la prétention que tout ce qu'on se dit ici, à Vente fraîcheur, c'est la vérité. C'est ça qu'il faut que tu fasses et rien d'autre. Non, non, non. Faut que tu prennes ça un peu comme une corne d'abondance, là, que tu piges dedans, tu fais des essais, des erreurs, puis tu avances vers ton mieux-être, vers ta paix intérieure. Fait que je vous envoie le petit avertissement et on se retrouve tout de suite après avec Brigitte et Éric. Et Frédéric, s'il veut intervenir, il aura beau de le faire puisqu'il est déjà en studio.
Talk rock et hip-hop, la recette qu'il est. Rock and hip-hop. Pas besoin de
avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique ou sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Voici votre émission Vente fraîcheur.
Oups, on retrouve à l'instant Brigitte et Éric. Comment allez-vous, Brigitte et Éric, ce matin? Ah! Prise 2? Je ne vous ai pas entendu.
Bon, maintenant, il y a du son?
Yes, il y a du son.
Ça va bien.
Ça va super bien.
Toi aussi?
Oui, 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 super bien. Ce matin, il y a un beau sujet, hein, parce que c'est une question qui est beaucoup posée, ça, j'ai l'impression, hein, de faire la distinction entre un randonneur puis un pèlerin.
Mm-hmm. Oui, puis en même temps, je t'écoutais quand tu faisais l'introduction tantôt, puis je me dis, c'est important de se rappeler aussi, on va faire la distinction entre les deux, mais de se rappeler aussi que le pèlerin s'est affranchi du cadre religieux. Donc, on n'est plus en train de parler d'une expérience religieuse, ça ne l'exclut pas, mais il y a autre chose aussi, plus large, une spiritualité plus élargie, je dirais une spiritualité laïque, si ça se dit, quelque chose qui nous rejoint dans le quotidien de nos vies, sans allégeance religieuse particulièrement, une spiritualité au sens large du mot.
Là. Le pèlerin, comme on le retrouve sur les chemins de Compostelle aujourd'hui, ou sur les chemins chez nous, chemin des sanctuaires, chemin des navigateurs, alors sont-ils randonneurs, sont-ils pèlerins, deviennent-ils pérégrins? C'est la question qu'on va traiter aujourd'hui.
Ben, c'est justement ça que je me disais, est-ce qu'il y a une distinction à faire entre pèlerins et pérégrins?
Oui, ben c'est ça. C'est qu'en fait, Bottevélo s'appelle Bottevélo le pèlerin dans tous ses états. Fait que c'est dire justement qu'on traverse des états, que de se lancer dans une expérience pèlerine, on va traverser toutes sortes de ressentis. Ça va nous faire vivre des choses qui vont nous remettre en question. Alors, faut vraiment revenir à ça, au fait que c'est une expérience d'abord et c'est pas un sport particulièrement. Donc, je peux vivre une expérience pèlerine dans différents contextes. En ce moment, on le vit beaucoup, on l'observe beaucoup à travers des marches de longue durée du type Compostelle, où on va parler d'un pèlerinage. C'était un pèlerinage religieux à l'époque, mais aujourd'hui, ça s'est affranchi de ce cadre-là pour vivre une spiritualité hors des cadres religieux, où c'est la personne elle-même qui est remise en question, qui est questionnée sur le sens de sa vie, sur sa manière d'être en relation avec les autres, avec elle-même, avec l'univers en général.
Mmh. Oui, ouais. Vous avez quelque chose à dire, Brigitte?
Oui, c'est parce qu'on a regardé, parce qu'on a discuté du... On a débattu du sujet avant d'en parler avec vous, parce que je disais, ben, un randonneur, j'ai dit, c'est quelqu'un qui part pour une courte durée à pied, mais quand on va regarder qu'est-ce qu'un randonneur et qu'est-ce qu'une randonnée, ben, on peut faire une randonnée en voiture, on peut faire une randonnée à vélo, on peut la faire à moto. Fait que finalement, le randonneur, quand on pense, il est pas juste à pied. Et le pèlerin, il est pas juste à pied non plus. Mais dans le cas dans lequel on va traiter, on va les comparer, les pommes avec les pommes. Fait qu'on se dit, le randonneur à pied et le pèlerin à pied, qu'est-ce qui les distingue?
Mmh. Puis, ce qui va être important, c'est ça, c'est de voir justement comment le pèlerin, il est déplacé. C'est qu'il y a ça, il y a cette idée de mouvement hein, derrière l'expérience pèlerine. C'est comment ça me bouge, mais comment ça me bouge intérieurement. Comme Brigitte a dit, on peut se retrouver randonneur dans toutes sortes, de toutes sortes de façons, pas nécessairement à pied, mais c'est ça nous déplace. C'est ça qui est l'idée derrière l'expérience pèlerine. C'est qu'il y a quelque chose qui va me faire changer de perspective, de manière de voir, de concevoir les choses.
On remarque souvent, il y a des gens, même ici, là, sur le chemin des navigateurs ou des sanctuaires, même le chemin des Outaouais, ils ne disent pas « je m'en vais faire un pèlerinage ». Forcément, au départ, ce n'est peut-être pas la première chose qu'ils disent. Puis finalement, à travers le voyage, quand ils terminent, ils vont dire, comme sur le chemin de Compostelle, ben, « je pense que je suis devenu pèlerin », puis ils vont se nommer pèlerin. « Je suis rendu un pèlerin, moi, je m'en vais pèleriner ». Puis ah, mais ben, qu'est-ce qui fait que finalement, la personne, elle ne dit pas « je suis un randonneur ».
Oui, pourquoi qu'on ne dit pas ça?
Où est-ce que ça s'est changé?
C'est ça. Mais il y a quelque chose à un moment donné qui va se produire qu'on dit c'était pas juste. Parce que le randonneur, bon, c'est une forme de voyage, c'est un ça peut être un sport aussi, aller faire de la randonnée en montagne, ou comme on fait une randonnée en moto, c'est de profiter d'un temps, d'un moment. Mais tout à coup, tu te rends compte qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train de se jouer. Puis le mot randonnée suffit pas pour décrire l'expérience que tu es en train de vivre. Il s'est joué autre chose à ce moment-là, puis tu as besoin d'un autre mot pour le décrire. Beaucoup de gens ont de la difficulté avec les mots pèlerinage, pèlerin, parce que à cause de leur connotation religieuse. Mais les mots pèlerinage comme tel, le mot le pèlerin, ou le pèlerinage, c'est tout ce que ça désignait à l'époque, les premiers temps, quand le mot est apparu chez les Romains de l'Antiquité, ben c'était un étranger, c'était un être qui était en voyage, qui était en déplacement, qui arrivait avec une manière de vivre autre, qui parlait une autre langue, qui vivait autrement. Alors, c'est tout ça qui est derrière l'idée du pèlerin. C'est devenu religieux par après pour exprimer une expérience spirituelle qui voulait dire, ben, je suis déplacé, je suis en voyage, je suis en train de traverser ma vie comme un voyage vers un ailleurs, un meilleur qui m'appelle. Bon. On était dans un contexte chrétien-catholique à cette époque-là, donc on se disait en route vers Dieu, vers le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, l'expérience pèlerine, dans sa spiritualité, va parler aussi d'un déplacement. Il y a quelque chose qui s'est changé, qui a été transformé, puis c'est là que je peux plus dire juste randonneur. On va l'entendre tout particulièrement aujourd'hui avec Compostelle. C'est là que c'est intéressant, c'est que si les gens ont de la difficulté à dire pèlerin ou pèlerinage, ils ont besoin d'un autre mot pour dire autre chose que randonnée. Puis ils vont se mettre à dire Compostelle. J'ai fait un Compostelle. Au lieu de dire j'ai fait une randonnée, ils vont dire j'ai fait un Compostelle dans telle région. J'ai fait un Compostelle en France. J'ai fait un Compostelle au Japon. J'ai fait un Compostelle en Gaspésie. Mais c'est quand je dis Compostelle, je suis en train de dire que c'était pas juste une randonnée que j'ai vécue. Il y a eu autre chose qui s'est passée. J'ai vécu ça d'une certaine manière, et c'est cette expérience-là que j'essaye de nommer à travers ce mot-là. Puis dans ce mot-là, ben c'est ça, il y aura différents états qu'on va traverser. Est-ce que je t'ai coupé?
Non, c'est correct. Petite question, Éric, qui est rentré. Moi, je fais du hiking que samedi. Ça se situe où dans ce que vous nous parlez ce matin?
Ben, je pense, le hiking fait partie de tous les types de randonnées qui peuvent se faire. Puis okay. L'expérience pèlerine peut apparaître en hiking aussi.
Comme elle peut apparaître. On a quelqu'un qui a fait la traversée, il faisait du bateau, de la longue durée en bateau. Ben, il a mané, il dit tous les états pèlerins dont tu parles, je les ai vécus. Moi, je crois que on va distinguer le randonneur et le trekker du pèlerin parce que le randonneur et le trekker, ils sont plus dans qu'est-ce que je fais? Alors que le pèlerin, ça va être plus dans le comment je le fais. Et on peut devenir... Le pèlerin, c'est plus une manière d'être au déplacement qu'on est en train de vivre. une manière de se mettre en relation. Tout comme j'ai le goût de dire, celui qui est randonneur va dire « Ah, mais je suis pas touriste. » Mais pourtant, tu rentres dans les églises, tu fais les dégustations du terroir, tu fais le détour par le petit musée, mais tu dis que tu n'es pas touriste.
C'est vrai.
Qu'est-ce qui nous distingue? C'est okay. Tout est dans la manière, donc comment je me définis par rapport à l'environnement que je suis en train de traverser.
Est-ce que le trekking serait plus, de ce que moi j'en perçois, est-ce que ça serait plus dans la performance et le Compostelle, le pèlerinage, plus dans la sérénité, dans la spiritualité?
Je ne pense pas que ceux qui font un trek, ceux qui font l'Appalachian Trail vont dire ça, parce qu'ils vont dire « Ah, tu sais, on se retrouve dans la nature, on est dans un bain de silence, on se retrouve avec soi-même. » Fait que l'espace de spiritualité va s'ouvrir à partir du moment où c'est ce que la personne tend à faire. Mais si la personne a dit, ben moi j'y vais pour le dépassement, je fais des kilomètres, je porte un sac, je suis dans l'expérimentation aussi de tous mes accessoires dans les refuges, dans mon matériel de cuisine, ben là la personne est dans sa performance, est probablement plus randonneuse et trekkeuse que pèlerine. Okay. Tout va vraiment dépendre dans la manière dont j'aborde le chemin que je suis en train de faire.
Et j'imagine. Une bonne part.
J'imagine
ça. Il y a une bonne part. Oui, excuse, vas-y.
On a trop à dire.
Vas-y, Eric, il y a une bonne part.
Ben, je disais, il y a une bonne part, c'est que du hiking, trekking, peu importe les mots qu'on va employer, on est en train de dire le type d'activité qu'on est en train de faire. Fait que si on dit du hiking ou du trekking, on va dire qu'on est en train de faire une randonnée, on est à pied avec le sac à dos, c'est le modèle, tu sais, c'est qu'on est en train de faire. On peut partir aussi en moto, comme on le disait, on peut partir en bateau, on peut partir dans un voyage une randonnée à kayak, là, tu sais, on va avoir différents modèles qui vont voyager, qui vont se déplacer, mais tout à coup, il y a autre chose qui embarque pour dire, ça a dépassé juste le sport ou l'activité. Il y a autre chose qui est... C'est à ce moment-là qu'on commence à parler d'une expérience pèlerine où on va parler de qu'on se sent plus pèlerin. Donc, quand je parle que je suis pèlerin, je vais davantage porter attention à ce qui a changé intérieurement dans ma manière d'être. Je me sens plus à la même place dans ma vie. C'est ça qui a changé. C'est pas le mouvement physique sur les voyager d'une ville à l'autre. C'est un déplacement. Mais là, tout à coup, je me rends compte que intérieurement, il y a quelque chose qui a changé. J'aborde plus la vie de la même façon.
Comment je me suis laissée transformer par l'expérience physique dans laquelle je m'étais embarquée? Que je suis allée là pour vivre, est-ce que je suis allée là juste pour vivre le déplacement et l'aventure, mais en même temps, est-ce que je constate que il y a un lâcher-prise? Je pourrais être, j'ai le goût de dire, souvent, on va embarquer dans l'état pèlerin à partir du moment où on lâche d'être dans le contrôle pour embarquer dans un espace de confiance puis se dire, regarde, je l'ai déjà vécu, ça va bien se passer, on retrouvera une solution. Puis j'embarque dans cet état où je suis plus à la recherche de maîtriser l'extérieur, mais plus être en harmonie avec ce qui se présente. Puis si je suis pas capable de faire les 25 kilomètres jusqu'au refuge, ou si je suis pas capable de faire les 15 kilomètres jusqu'à l'auberge, je vais trouver une solution, je vais m'adapter, je vais prendre un bus, je vais faire du stop, je vais appeler quelqu'un, j'accepte de lâcher prise sur ma performance.
Oui, ça passe ce que tu as dit là, et ceux qui étaient à mon atelier conférence hier, parce que j'ai parlé un peu de mon chemin de Compostelle, vont tellement se reconnaître et reconnaître les choses que j'ai mentionnées hier. Vous l'expliquez d'une façon différente, mais c'est tellement ça, là. J'adore ce que vous nous dites ce matin. Et de passer à cette expérience-là, c'est tellement grandiose, Brigitte et Éric, là.
Oui, ben c'est ça, c'est que quand tu dis c'est grandiose, c'est parce que ça a eu un effet. Hein, sur soi, c'est pas juste un voyage. Il y a autre chose qui s'est joué, qui m'a déplacé. Je suis tombé l'autre jour sur un article une entrevue avec Jeff Boudreau, un comédien québécois, qui parlait, c'était en 2022, là, ça fait 2 ans de ça, mais il disait il racontait un voyage à moto qu'il a fait où il a traversé l'Amérique, il est parti de la côte est vers la côte ouest en moto, il a fait ça aller-retour. Puis il dit à un moment donné dans son entrevue, il dit « Je voulais faire un Compostelle à moto, puis je pense que j'ai réussi. » Puis après ça, il se met à décrire qu'est-ce qu'il a fait. Il dit, j'ai exploré des parties de moi qui étaient un peu moins, qui m'étaient un peu moins connues. Je me suis découvert autrement. Puis là, c'est là qu'il se met à entrer. OK, on n'est plus juste dans le voyage. Il est en train de décrire le voyage intérieur qu'il a fait à travers tout ça. Ça a eu un impact sur lui. Il essaye de décrire à travers ce qu'il nous raconte là, mais ça dépasse largement la moto. C'était plus juste de la moto. Il aurait pu juste parler de son voyage en moto puis nous raconter comment on se prépare à moto, à quoi je dois...
Oui, puis comment... Allé,
tout le niveau mécanique, à quoi je dois penser parce que je vais faire quand même 10 000 km aller-retour. Qu'est-ce que je dois...
Là, on est dans le randonneur dans ce temps-là.
Ben, on est plus juste dans le côté technique.
c'est ça, le randonneur. Mm-hmm. Si on se limite, parce que c'est pas péjoratif, mais celui qui est randonneur, puis c'est une étape normal dans le déplacement vers Compostelle. Si je veux me rendre de faire mes 800 km, va falloir à un moment donné que je sois randonneur, donc que je rentre dans l'état technique et que je dise, OK, là, il faut que j'apprenne à soigner mes pieds de telle manière, faire mon sac de telle manière, gérer mon chemin de telle manière. Puis tant que je suis là-dedans, là, je suis dans l'organisation, j'ai pas accédé, je suis pas en train de me questionner sur vers où je veux aller dans ma vie. Je suis encore dans le terrain. À partir du moment où ça va être réglé, puis que j'entre dans un état qui est autre et que je peux vivre quand je suis un trekker aussi et que là, je marche, puis là, je revisite, comme il disait, là, Éric, les différentes facettes de ma vie, puis comment je veux que ce soit à mon retour, puis comment j'ai le goût d'enligner mes flûtes, puis qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce que j'aimerais qu'il y ait plus. Là, j'embarque dans le volet pèlerin.
Puis là, comme on parle, on entre dans le volet pèlerin, mais une des choses qui distingue particulièrement l'étape pèlerine, l'étape, le moment où je me sens vraiment pèlerin, c'est que je lâche prise sur l'expérience que je voulais contrôler. Quand j'ai un voyage que j'organise, que je cédule toutes mes étapes, que je sais où je vais dormir, je sais comment ça va se passer, j'ai des attentes face à la météo, aux gens que je vais rencontrer, puis tout à coup, je me rends compte que ça ne peut pas se produire comme j'avais pensé, qu'il y a toujours quelque chose qui va m'échapper, ben c'est là que je deviens pèlerin, puis que j'accueille ce qui est en train de se produire, puis comment ça va me parler. À travers ça, il y a quelque chose qui va se produire, ça parle de moi, ça me fait réagir de toutes sortes de façons, ça peut être de la joie, de la peine, de la colère, peu importe, il y a quelque chose qui va se produire, puis ça me parle de moi. Puis là, ça va être à explorer.
Qui va se produire ou qui se produira pas. Oui. Parce que quand même, ça, dans les Compostelles, quand on perd un Compostelle d'un 800 km de marche à travers un pays, ben il y a quand même une personne sur quatre qui abandonne. Pour différentes raisons, mais si j'ai abandonné, c'est probablement qu'il y a un bout de moi qui est pas capable, qui a pas été capable de lâcher prise, d'accepter de faire autrement. Je me suis blessée parce que j'ai poussé la machine, parce que j'ai voulu me montrer à la hauteur, j'ai pas voulu décevoir, j'ai voulu performer. Il y a quelque chose qui fait que il y a une personne sur quatre qui n'entrera pas dans cet état pèlerin. Parce que ça prend à peu près une dizaine de jours, mm-hmm. le temps d'avoir réglé toutes les situations de base, d'être passé par le volet touristique où je m'extasie de tout, et puis ça prend une dizaine de jours. Fait que quand je pars juste une semaine, je dois juste rester probablement touriste.
Puis ça va être important, justement, c'est ça, c'est que je le traverse, cet état de « je vais me préparer, je vais devenir meilleur dans tout l'aspect technique, mais je vais avoir besoin de décrocher tout ça à un moment donné pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer. » Puis si je décroche pas, ben c'est ça, c'est qu'au bout d'une semaine, je vais abandonner. Puis c'est beaucoup de gens quand même, là, 25 % des gens qui abandonnent, une personne sur quatre qui abandonne au bout d'une semaine parce que il y a quelque chose qui arrive pas, je suis pas capable de dépasser finalement. Là. Parce que c'est vraiment dans la durée que ça va se jouer. Jean-Christophe Ruffin, qui a écrit Immortelle randonnée, disait Compostelle, il dit une semaine, c'est des vacances. Au-delà d'une semaine, il dit ça devient autre chose. Quand j'arrive à 8e, 9e, 10e journée, là, c'est le fait de persister dans le temps, dans cet exercice-là, dans ce long voyage-là. Peu importe comment il va se faire, qu'il soit à moto, qu'il soit en auto, qu'il soit à pied, qu'il soit en bateau, c'est la durée d'être sorti de chez soi longtemps, de ses habitudes, de ses routines, pour se laisser déranger. Il y a quelque chose d'autre à fréquenter des gens qui vivent autrement, qui remettent en question mes manières de vivre. Quand, à un moment donné, j'en viens à considérer que c'est ça qui est la norme, c'est ça qui est normal, ce que je vis. Puis tout à coup, à fréquenter des gens qui vivent autrement, bien, ça me fait voir que, ah ben non, il y a possibilité de penser, d'agir, d'être autrement.
Juste d'être un Québécois qui soupe à 5h30 et de se retrouver condamné à souper à 8h30 quand on va en Europe. Puis 8h30, je suis généreuse, hein, parce que des fois, c'est 9h. Et ça se peut que ça me dérange, puis que ça me bouscule dans mes habitudes. Puis comment je vais composer avec cette différence-là? Est-ce que je vais y résister ou est-ce que je vais céder? Qu'est-ce que je vais faire?
Bien, pendant une semaine, habituellement, on compose avec. C'est à long terme que ça change. Je suis entièrement d'accord avec vous autres. Et quand on part une semaine, on ne sort pas beaucoup de notre zone de confort. On part souvent faire une semaine de vacances.
Oui.
Ici
oui,
et
c'est,
là.
C'est juste décrocher un peu, décompresser.
Oui.
Mais, au-delà de ça, c'est là qu'on embarque dans une expérience qui est autre.
Qui est une expérience transformatrice, hein, parce que les études le disent, ça prend 21 jours pour faire une transformation. Fait que c'est sûr qu'en 5 jours, ben j'ai goûté quelque chose de bon, mais je reviens, je suis la même personne. Hein. Après une semaine, la personne qui va dire « Mon Dieu, t'as donc bien changé! » Alors qu'après un Compostelle ou après un trek dans les Appalaches, ça se peut très bien que je revienne transformée parce que il y a des choses que j'ai mis en place, que j'ai revisité, que j'ai resitué, puis que je reviens avec la ferme intention de transformer dans mon quotidien. Je suis plus la même personne à la fin.
Puis d'ailleurs, au bout de tout ce cheminement-là, on va parler les différentes figures qu'on aborde pour dire les états du pèlerin. On parle du touriste, du randonneur, du pèlerin. À un moment donné, j'arrive dans mon expérience, dans mon voyage où je deviens pèlerin. Mais le retour, on va parler du pérégrin. Ça aussi, c'est intéressant parce que le pérégrin, c'est celui qui va être capable de revenir dans son environnement en ramenant cette liberté qu'il est allé chercher à travers son expérience. Le pérégrin, encore une fois, à l'époque de la Rome antique, ce que ça désigne, ce n'est pas un citoyen romain, ce n'est pas un esclave, c'est un être libre dans la cité conquise. Donc, juste ça, de revenir dans la cité conquise d'aujourd'hui et conquise de toutes sortes de façons, puis dire, je vais être capable de me comporter comme un être libre dans tout ça, c'est pas évident ça aussi. D'avoir intégré et de ça fait que ça demande là aussi encore de cheminer pour ramener ça dans le quotidien de sa vie. Donc le pérégrin, l'étape ultime, c'est de revenir dans la cité conquise en pérégrin.
Oui, parce que et de ne pas retomber dans nos patterns, c'est ça, hein?
Exactement. Puis c'est des fois c'est de retomber dans les patterns, oui, oui, mais des fois, c'est de ne pas céder,
d'y être confronté.
Oui, je suis confrontée, puis ça va me demander un effort de continuer d'être la personne que je me suis découverte sur le chemin. J'ai une anecdote très de base, hein. On est dans un pèlerinage, on a une dame avec nous qui porte sa tuque tout le temps, puis à un moment donné, elle dit « là, ça se peut pas, enfin, j'aille chez la coiffeuse, je commence ça ». Elle dit « mais c'est parce que moi, je frise comme pas possible, puis ça fait depuis que j'ai 13 ans que je me raidis les cheveux ». Elle dit « là, je peux pas supporter, mais dis-nous, on t'a jamais vu autrement que comme ça ». Alors, elle a assumé ses bouclettes qui lui allaient super bien, mais quand elle est revenue chez elle, elle a dit « ben quand je vais au travail ». Je me redis les cheveux, mais le reste du temps, j'assume mes bouclettes. Mais ça a été, c'est niaiseux, là, mais ça parle. Ça, c'est un comportement observable. Mmh. Et sur le chemin, elle vivait très bien avec sa tête d'origine, en quelque part. Mais ça a demandé un travail de ramener ça à la maison. Et c'est ça, c'est le travail de garder la personne que je me découvre être en vérité sur le chemin. Ça doit être pareil quand on fait un trek, je reviens avec ça parce que la personne a posé une question, mais je me dis, tu vas découvrir un rythme de vie que tu aimes. Bien, ce rythme, tu peux te le mettre dans ton quotidien. Tu as découvert des choses que tu as aimé goûter sur ton chemin. Bien, ça se ramène dans le quotidien. Puis c'est de se demander comment je le ramène pour que ça continue de me correspondre. Ça, c'est un travail.
Oui, puis Éric et Brigitte, parfois dans vos chroniques, vous nous parlez de la lecture, hein, du chemin. Donc, c'est comme si on lit un livre, mais qu'on ne fait rien avec. Donc là,
on en lit plein de romans comme ça.
C'est ça, vous nous invitez à faire la lecture, mais à en retirer quelque chose après et à appliquer quelque chose de nouveau dans notre quotidien.
Oui, ben c'est ça, on en lit plein de romans qu'on a trouvé beaux, tout ça, mais ça en reste là. Mais l'expérience pèlerine, quand c'est là qu'elle entre ou qu'elle agit, c'est que je me rends compte que je peux pas en rester là. C'est comme si je vivais dans une pièce où il fait noir continuellement. Tout à coup, j'allume la lumière, puis je vois ce qu'il y a là, puis je referme la lumière. Je peux pas faire comme si ça existait pas. Je l'ai vu à cette heure.
Ouais.
Hein? Même si je reviens chez nous à noirceur, je le sais que ça existe, qu'il y a autre chose. Fait que c'est là que j'ai à me laisser travailler. Et une bonne part de l'expérience, ça va être ça, de rester flexible, malléable face à ce qui me provoque, parce que c'est ultimement ce que je découvre à travers l'expérience pèlerine, dans cette provocation qui est extérieure. Quand j'écoute intérieurement ce que ça fait, le goût que ça laisse, je me rends compte que ça me permet de découvrir davantage qui je suis, d'assumer davantage pleinement ce que je suis.
De l'assumer, de le dévoiler, de le révéler. Mm-hmm. Quand on parle longtemps, à un moment donné, là, j'ai parlé des bouclettes, on peut parler du maquillage, de l'habillement. C'est tout superficiel, ça, mais ça parle de comment j'accepte de juste être, mm-hmm. puis de laisser aller aussi mon caractère, mon tempérament.
Oui, ça peut être des goûts, des préférences que j'ai, puis que j'ose pas manifester aux yeux des autres parce que j'ai peur de ce qu'on va dire, ce qu'on va penser de moi. Oui. Là, tout à coup, je me rends compte, ben non, là, je m'éteins si je continue comme ça.
Parce qu'après plusieurs jours de marche, avec la fatigue, avec l'usure, il y a des choses qui prennent la personnalité prend le dessus, les superficialités prennent le bord. Et puis là, je vis avec beaucoup de liberté sur le chemin. C'est quand je reviens, comment je continue de l'assumer.
Vraiment.
Et le pèlerin, c'est le gros défi du pèlerinage.
Mmh, oui, l'être libre dans la cité conquise.
Et avec bottes et vélo, ben, ça nous permet de prendre conscience de toutes ces étapes-là qu'on traverse. Et où on se situe aussi, parce que peut-être qu'on les a pas toutes traversées, hein, c'est pas tout le monde qui a fait plus de 10 jours sur les chemins, mais ça nous permet de voir où on est, ça nous permet de voir jusqu'où on veut se rendre aussi.
On le vit pas tous de la même façon, fait que c'est ça. Faut pas non plus en faire une norme, là, hein, dire c'est comme ça que ça va se passer, puis il faut que tu suives. Non, on n'est pas là non plus. On essaye de décrire, ça ressemble à, c'est comme ça, mais faut pas en faire une recette qu'on va appliquer, puis qu'on va suivre, puis on se dit, hey, non, là, j'ai pas vécu cet état-là, j'ai pas vécu cette étape-là, j'ai manqué quelque chose. Non, c'est pas ça. Mais soyez attentifs à ce qui se passe, à ce que vous vivez, aux effets de l'expérience. C'est là-dedans. C'est là que ça se joue. Comme on disait tantôt, c'est une lecture, c'est un livre, je m'en vais lire, mais ce livre-là, il me percute, il me travaille de l'intérieur, il me questionne, il m'interroge, il me remet en question. C'est là qu'il faut que j'aille. Faut pas que je fasse juste passer à autre chose. Faut que je me laisse travailler là-dedans.
Puis qu'est-ce que j'ai goûté de bon dans mon expérience? Puis je reviens avec le fait que ça peut être un trek, mais ça peut être... l'idée, c'est de partir longtemps. Moi, je connais quelqu'un qui est parti faire de l'aide humanitaire là en Amérique centrale. Partir un mois, ça va être dans le dérangement aussi. Qu'est-ce que j'ai goûté de bon et qui, même si je suis en Amérique centrale, je vais le ramener au Québec. Je vais en remettre dans ma vie. C'est quoi? C'est l'accompagnement des enfants. C'est bâtir quelque chose de mes mains. C'est la vie communautaire. Il y a quelque chose que j'ai aimé qui me correspond. Ben, comment je ramène ça dans mon quotidien?
Merci Brigitte et Éric pour cette belle chronique ce matin. On se retrouve le mois prochain pour une dernière avant les vacances estivales.
C'est vrai, déjà les vacances vont arriver.
Mai, juin. Non, on va peut-être avoir le temps d'en faire deux. Je suis trop vite, là. On s'en va au mois de mai. On va avoir le temps d'en faire deux, peut-être. Je me souviens plus, je n'ai pas regardé. On verra tout ça. Bref, il en reste au minimum une. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Ça fait plaisir. À bientôt.
Bye-bye.
Donc, nous, on se dirige en même temps que je vous parle. Je vais tenter de rejoindre notre ami Alain Perron au bout du fil. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Je fais deux affaires en même temps. Là, hey, je m'en viens bonne. Hein? Je suis polyvalente de même. Ça n'a pas de bon sens. On va appeler Alain en direct. Je ne donnerai pas le numéro tout haut hein, parce qu'Alain n'aimera pas ça. Oups, ça ne marche pas. Ah ben, je vous envoie la pause puis je vais essayer de le faire pendant la pause à la place. À tout de suite.
Laurent et les truands.
On va parler avec Ken Lo parce qu'il y a un gros spectacle qui s'en vient.
Parlez de ça un peu, là, votre émission. Moi, j'écoute des fois CGMD. Je vois un peu là, les vibes, mais j'aime ça. Même les enfants aussi, on écoute. C'est la seule radio à Québec là, qui bump la bonne musique, man. So, on pas mal la radio que j'écoute le plus, là, straight up.
Ben, on est bon. très bons réflexes.
Ne manquez pas Laurent Lutruant du lundi au jeudi dès midi.
TBL.
Écoute ça.
Vous écoutez CJMD 96.9.
CJMD 96.9, t'es où à matin? Alain, t'es là?
Ben oui, absolument. On vous parle en direct de Trévy. Et je vous parlais dans l'intervention précédente que le plaisir estival est très facile chez Trévy. C'est notre bonheur de vous satisfaire avec toutes les activités que ça peut, évidemment, avec les invitations et tout ce qui s'ensuit. Un été vraiment extraordinaire. Aussi peu que, imaginez ça, 3 799 $. Les rabais sont tout inclus, il va sans dire. Nouvelle génération de notre piscine en terre, Trévy Madrid. Elle est toute équipée et elle est offerte seulement à ce prix-là. Imaginez, 3 799 $ pour une piscine pour agrémenter votre été. Et là-dessus, on rajoute, imaginez, un chauffe-eau gratuitement d'une valeur de plus de 2 000 $. Tout ça et beaucoup plus encore. Venez faire un tour chez Trévy, que ce soit du côté de Québec, boulevard Pierre-Bertrand, ou ici dont je vous parle. Nous sommes précisément au 4750 boulevard Guillaume Couture à Lévis. Trévy, Lévis, CJMD sur place.
Oh, que ça vaut la joie de se déplacer, d'aller dire bonjour à Alain et à la gang de Trévy. On se parle plus tard, mon ami.
Merci, à tantôt.
On passe en direct à l'instant sur notre page Facebook parce qu'on reçoit Frédéric Huillon, le financier, pour nous parler de budget. Oh là là, ça, c'est pas facile, le budget. Hein? Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est vrai, l'argent ne fait pas le bonheur. Hein? Mais les problèmes financiers et les sentiments d'insécurité que ça peut nous amener, par contre, sont un obstacle majeur à notre preneur. Et de faire un budget, Frédéric, je pense que ça peut nous aider.
Effectivement, ça peut aider et c'est quelque chose de palpable. Souvent, il y a beaucoup de choses que je ne veux pas trop élaborer émotivement, des choses qui nous affectent. C'est difficile des fois de mettre des mesures et pouvoir améliorer des choses. Mais point de vue budget, ben, tout le monde doit avoir un toit sur sa tête, avoir du linge sur son dos et avoir de la nourriture sur sa table. Donc tout ça... malheureusement, entre guillemets, et ça, il y a une connotation de argent monétaire en arrière de ça. Donc, il y a le fameux budget que bien des gens font une petite gueule de bois quand on demande s'ils en font un, comment ils font, et on pose des questions en creusant un peu. Donc, c'était un peu le but aujourd'hui que je voulais un peu simplifier vraiment ce que c'est que le budget pour essayer... tant bien que mal, de diminuer le stress que les gens auraient devant ce petit mot de 6 lettres.
Mmh. Oh, toi, tu comptes les lettres. Vous voyez à quel point il aime les chiffres.
Hein? Oui,
il compte
les
lettres.
Il reste 2 jours d'impôts.
Il reste 2 jours d'impôts. C'est en plein ta période. Est-ce que tu prends, puisqu'on en parle, Frédéric, est-ce que tu prends encore de nouveaux clients?
Et oui, c'est sûr que là, pour le 30 avril, aucune promesse. Mais oui, effectivement, là, si des gens ont perdu leur comptable...
Ou qui ont le goût d'en avoir un nouveau préparateur d'impôts. Mais là, pourquoi tu nous dis que tu ne nous fais aucune promesse? Ça veut dire quoi, ça?
Bien, il y a fameuse, on avait parlé, je pense, dans une ancienne chronique, la fameuse où je les ai fait dans des capsules là, sur mon portail, mon groupe Facebook.
J'améliore mes finances.
J'améliore mes finances, effectivement. Des dates limites, donc le 30 avril et la date limite où est-ce qu'on devrait avoir produit notre déclaration d'impôts.
OK. Fait que ce que tu ne peux pas promettre, c'est de transmettre au 30 Exactement. Avril. OK, parfait. Mais tu acceptes de nouveaux clients Exactement. Et même des retardataires, si je comprends bien.
Depuis 2-3 ans, les retardataires sont de plus en plus retardataires.
Oh, d'accord. Okay. Donc, à la limite, tu fais des déclarations de revenus à l'année.
L'année. Il y a deux mois vraiment très précis. Deux mois et demi.
OK.
Et j'en ai fait jusqu'en décembre l'année passée. Puis j'en recommence des fois en janvier, là. Qui se sont... Oups, j'ai oublié de le faire.
OK. Fait que là, on revient à notre sujet du jour, qui est le budget. Hein?
Oui.
Pourquoi qu'on fait un budget? C'est quoi un budget aussi?
Ben, à la base, pour simplifier ça, je voulais simplement un peu imager le côté budget. Je veux juste qu'on s'imagine là, qu'on arrive sur une île déserte et qu'on va jouer au Monopoly en monde réel. Donc, on arrive sur l'île et on nous donne un certain montant d'argent. tout comme le jeu Monopoly. On va oublier le côté prison, passer go et réclamer 200$, des choses comme ça. Moi, je suis dans l'ancien modèle. Je sais qu'il existe des nouveaux Monopoly avec d'autres plaquettes. Mais à la base, c'est, on arrive sur une île, on nous donne un certain montant, que ce soit 500$, 1000$, peu importe le montant de départ, et on dit, ben maintenant, tu dois vivre sur l'île avec cet argent-là pour te nourrir, te loger et t'habiller. Et donc là, on a un certain montant d'argent dans notre porte-monnaie, et là, on va dire, ben maintenant, il faut que je me trouve un travail ou quelque chose qui va me faire rentrer des sous dans mon porte-monnaie, parce que le prochain mois, j'aurai plus rien dans mon porte-monnaie parce que je vais l'avoir dépensé dans le premier mois. Donc, il faut que je me trouve un travail. Et à travers de ça, ben, j'ai des dépenses et je vais devoir équilibrer ça. Donc, le budget en tant que tel, c'est simplement ça. Si on oublie le côté des marges de crédit, des emprunts et tout ça, le budget pur et simple, c'est dire, ben, j'ai un porte-monnaie en partant et je dois avoir des entrées pour pouvoir continuer à vivre et il y a des sorties qui se font naturellement pour que je puisse vivre, et oui, en partant, mais profiter de la vie, pouvoir me payer des petits bonus, des spas, je pense à ça, des restaurants ou des choses comme ça, en surplus des besoins primaires.
Donc, mais là, moi, j'aime beaucoup le petit côté ludique que tu nous apportes ce matin, là. Hein, oui. Parce que partir de l'île déserte ou l'île paradisiaque pour faire son budget, là.
Oui.
J'ai pas souvent entendu ça, honnêtement. Oui. Mais ça apprécie que ça a l'air le fun d'aller faire son budget sur une île déserte. Vous trouvez pas?
Papier crayon.
Hein?
Le bruit des vagues.
Ah, tout cas, je dis ça de même, là. J'ai peut-être le goût, moi, là, d'y aller, là.
Donc, on va y aller avec vraiment des étapes.
Oui.
J'en ai quelques-unes étapes que j'ai répertoriées, puis je pense que ça va venir là, vraiment simplifier la chose. La première étape, bien, c'est prendre un papier crayon. J'ai monsieur, je ne sais pas comment...
Luc Vignon?
Luc, qui est arrivé. Qui a justement son papier crayon, il l'a pointé devant moi quand j'ai parlé tantôt de papier crayon. Et on va répertorier nos sources de revenus. Donc, ça, c'est la première étape de dire comment je gagne par semaine, par deux semaines, par mois. Ça dépend de comment les payes se font. Si on est un travailleur traditionnel, si on est un travailleur autonome, ben, des fois, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il peut y avoir des entrées d'argent plus grosses à certains mois, certaines semaines, et plus basses à certains d'autres autres semaines.
OK. Donc, ces sources de revenus-là, on les prend avant ou après impôt?
On va les prendre après, parce que l'impôt, okay, pour un travailleur traditionnel, c'est très simple, parce qu'il reçoit sa paye automatiquement après impôt.
OK. Donc, on prend le clair, le net ouais, dans nos poches.
Le travailleur indépendant, quand je fais des impôts, ben des fois, il n'aime pas le montant que je lui annonce qu'il doit payer. Et là, je leur fais réaliser qu'ils doivent diviser par 52, et c'est à peu près ce qui sera enlevé de leur montant qui gagnait à chaque semaine, à chaque mois.
Okay.
Donc là, mon ami réalise, ah oui, c'est vrai, j'ai rien payé pendant toute l'année. Maintenant, je dois le payer. Un travailleur traditionnel le fait à petite dose, un 50e, 52e là, par année.
OK.
Donc ça, c'est la première étape.
La deuxième?
La deuxième, bien là, sur notre feuille, on va répertorier nos dépenses fixes. Ça ressemble énormément à ce que je parlais tout à l'heure, nos besoins essentiels. Ça me coûte combien pour manger, me loger? Et là, même ici, là, j'ai des exemples que je m'étais mis. L'hypothèque, donc j'ai un loyer à payer, mon toit, les factures d'électricité, l'eau s'il y en a, gaz, les abonnements cellulaires, Internet. Donc, c'est des choses, c'est fixe à tous les mois. Et
les renouvellements de permis de conduire.
Oui.
Les paiements d'assurance.
Oui.
Oui, hein, OK.
Oui, oui.
Mais comme le renouvellement de permis de conduire ne vient pas à tous les mois, est-ce que tu mets ça quand même dans cette étape-là de dépenses fixes?
Oui, là, on le met vraiment, là, on fait un peu de griffonnage sur un papier, là, papier crayon. Là. Donc, on les met là, des choses qui sont fixes à tous les semaines, tous les mois, tous les années.
OK.
Parce qu'après ça, on pourra faire un budget annuel divisé comme on voudra après. Là.
OK.
Donc... les côtés. Après ça, on y va sur le côté des dépenses variables. Mmh. Bien là, ça va être les vêtements qui vont être plus là, les loisirs, les sorties. Donc, toutes des choses qu'on ne sait pas un mois à l'avance ou deux mois qu'on va devoir payer une certaine facture.
Est-ce que l'épicerie va dans les dépenses variables ou bien dans les dépenses fixes?
Il serait plus, tantôt j'en ai parlé, plus dans les besoins primaires, là, mais l'épicerie peut varier. Okay. Donc l'été, si on fait pousser des légumes dans notre cour arrière, ben ça va diminuer notre facture de fruits, pas fruits, mais plus légumes à l'épicerie. Là.
OK, donc ça, l'épicerie, c'est une dépense variable.
Oui, exactement.
OK, l'essence pour la voiture?
C'est plus variable, tout dépendamment. C'est sûr qu'un travailleur traditionnel va travailler toujours au même endroit et ça devient, à un moment donné, une moyenne qui ne bouge pas énormément.
OK. Ta quatrième étape?
La quatrième étape, bien là, on va y aller sur... On va créer notre budget maintenant. Oh, excusez. On va définir des objectifs financiers.
OK.
Donc là, on a mis sur papier nos revenus. On a séparé en deux nos dépenses qu'on a mis sur papier. Qu'est-ce qu'on pense? Puis... On va voir les étapes par après, là, où est-ce que c'est pas quelque chose de figé dans le béton, là, ce qu'on vient de déterminer comme les premières options. Donc, les objectifs, ben, ça va être, est-ce que je veux faire de l'épargne? Est-ce que je veux me ramasser des sous pour ma retraite, pour faire un voyage en 3 ans? Moi, j'ai économisé, il y a quelques années, pendant 7 ans, un certain montant qui n'était pas énorme, mais qui allait par rapport à mon budget pour aller à Walt Disney, que j'ai été en 2019. Donc, il y a plein d'objectifs de cette façon-là. Par la suite, ben là on va vraiment créer le budget. Donc là, il y a plein d'outils sur Internet qui est possible de trouver, des tableurs. Si des gens sont habiles avec Excel de ce monde, les Google Sheets, je crois, avec la famille de Google.
Google Docs.
Doc?
Oui.
Doc, oui.
Ah, OK. Je pense que c'est Sheet, la feuille des colonnes.
Sheet doit être en anglais, puis Doc pour document doit être en français, ouais, j'imagine. Là.
Moi, je suis plus la vieille école du Excel, fait que j'ai grandi avec Excel, le DOS au début. Là. Donc, s'il y en a des gens qui sont habiles là-dedans, de faire des petites formules et tout ça, ben c'est une application hyper intéressante là, pour pouvoir développer son budget. Donc, à travers de ça, ben, c'est sûr que là, on va mettre nos revenus en haut et les dépenses en bas. L'étape suivante, c'est d'ajuster son budget. Donc là, mettons qu'on le fait un budget par mois, ben, un travailleur traditionnel va dire, ben, on va y aller simple, 4 semaines par mois. Ben, pendant 4 semaines, je gagne, 700 $ par semaine. Donc, ça fait 1 400, ça fait 2 800. Donc, je sais combien je vais gagner. Après ça, ben, mes dépenses fixes, on sait qu'ils vont être fixes, à moins qu'il y ait une petite augmentation ou renouvellement, mais on y va de façon là, simple, fixe. Donc, on les met. Donc, on sait déjà à peu près combien il va nous rester pour les dépenses variables ou est-ce que les loisirs à l'intérieur de ça, les autres dépenses, ben, on vient les mettre. L'idée, j'en parle souvent, et là, ici, on parle de pas de crédit, là, pas de carte de crédit, qu'on dépense beaucoup un mois pour pouvoir dire, le mois d'après, on va dépenser. Ou bien, juste la section carte de crédit pour l'instant, qui vient complexifier l'exercice, je dirais. Donc, là, l'idée, c'est de dire, ben, je m'ajuste, je regarde, est-ce que à chaque mois, j'ai plus d'entrées d'argent que de sorties d'argent? Donc, ça, c'est vraiment un exercice très, très, très important à faire. Et l'important, c'est que si j'arrive, là, c'est vraiment l'étape qui appelle à ajuster votre budget, c'est que s'il y a un mois qui... Je suis pas devant la caméra. Donc, s'il y a un mois que j'arrive en négatif, bien, je devrais ajuster. Est-ce que je vais m'organiser pour aller faire un petit deuxième travail pour pouvoir augmenter mes revenus, ou est-ce que je vais sabrer, là, couper quelques dépenses pour pouvoir dire qu'il faut que j'arrive au moins à zéro et idéalement avoir un petit surplus là, pour si jamais il y a un petit pépin, quelque chose qui brise à la maison, qu'on puisse pas être en panique, un frigidaire quand ça lâche, ben il faut continuer à manger, donc il faut que ça rentre, c'est une dépense qui rentre.
Okay. À quelle fréquence, Frédéric, suggères-tu qu'on passe en revue notre budget?
Ben, ça, c'est un peu personnel à chacun. Beaucoup de gens le font selon la paye. les premières personnes que quand j'ai commencé à regarder tout ça, je voyais des gens tourner leur enveloppe de paye avec le chèque de paye qui était dedans, ils le mettaient à l'envers puis ils faisaient un budget là d'une semaine là-dessus. Là. Donc ça, c'est selon les payes, les gens aux deux semaines peuvent le faire aux deux semaines. C'est vraiment, je dirais, personnel à chacun. Le maximum, ça serait au moins une fois par mois pour vérifier.
Le maximum ou le minimum?
Ben, le minimum. Ben, maximum. Minimum.
Minimum.
De le faire au moins une fois par mois.
Une fois par mois. Okay. J'avais de la difficulté à faire le parallèle entre le minimum et le maximum. c'est ça. C'est pour pouvoir voir tout de suite, déjà, s'il y a quelque chose qui va en négatif, ben, de pouvoir se réajuster. Là. L'étape que je parle, c'est de le faire avant même, parce qu'un budget, dans le fond, on projette nos revenus et nos dépenses.
Oui.
Donc là, on les ajuste. Et l'étape d'après, ben, c'est par après, là, on fait une vérification. C'est sûr que si on y va avec mon exemple de début sur l'île avec l'argent Monopoly, ben, quand il n'y a plus d'argent dans mon porte-monnaie, je ne peux plus rien m'acheter. Donc, en réalité, ça devrait être similaire, le même principe, de dire, ben...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Quand j'aurai plus d'argent dans mon compte de banque, dans mon portefeuille, j'arrête les dépenses. Donc, c'est un petit peu, des fois, des prises de conscience à faire à cet endroit-là qu'il faut faire. Donc, c'est là de faire des réajustements. À un moment donné, là, il y a un nouveau projet qui arrive, un nouveau...
Il y a des imprévus, des fois, des affaires exceptionnelles, comme une automobile qui lâche, un frigidaire qui lâche, je sais pas, moi...
Ou une pandémie.
Pandémie, ça a peut-être fait économiser les gens. Peut-être qu'ils ont été dans le chenoute aussi. Ça dépend.
C'est le principe du verre à moitié plein, à moitié vide.
Ouais. Oui. Mais là, toutes ces imprévus-là et ces exceptionnalités-là, on met ça où dans ton budget?
Ils vont passer en dépenses, oui, lorsque ça va arriver. Sauf que, à côté du budget... Le budget ne répond pas à tout. Il y a le côté, ce qu'on doit avoir aussi en finances personnelles, de ce qu'on appelle un fonds d'urgence. Donc, ça ne rentre pas dans le budget. Le fonds d'urgence, quand on parlait qu'il faut qu'il y ait un petit surplus, et à travers les dépenses qu'on a mis, ça serait bon de se mettre une ligne épargne. Et là, ça, c'est un autre principe financier qu'on dit, on doit se payer en premier, idéalement, mettre un 10 % de côté pour nos propres affaires.
Bien, justement, Frédéric, je voulais revenir avec toi sur ce point-là, parce que l'épargne, tu nous as mis ça dans la quatrième étape de définir notre objectif financier, mais en même temps, on entend souvent dire « paye-toi en premier ». Donc, ça ne devrait pas être une dépense fixe.
Très bon point, Manon. Très, très, très bon point. Et beaucoup de gens qui de plus en plus, bon, est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos de la pandémie ou pas, peu importe, l'inflation, les coûts ont augmenté. Je suis persuadé que de plus en plus de gens qui ont baissé leur pourcentage d'épargne parce que il faut mettre du beurre sur ses toasts ce matin, là. Donc, il y a ça, mais c'est un excellent point que tu abordes là, maintenant, que de se payer, ça rentre dans les tout premiers principes de finances personnelles, de se payer en premier et de faire en sorte de ne pas dépenser plus que qu'est-ce qui rentre en argent. Et de là, tout le côté marketing qui nous force un petit peu à faire des dépenses un petit peu superflues. C'est un terme que je m'étais écrit à la fin. D'en parler, qu'à travers de tout ça, chacun doit faire son budget en conséquence du style de vie qu'il veut vivre. Donc, si quelqu'un gagne 50 000, pourquoi essayer d'avoir un style de vie à 60 000? Donc, c'est un 10 000 par année qui va flotter sur des marges de crédit, des cartes de crédit et tout ça, qui fait que à un moment donné, il va avoir un pépin, fort possiblement que si la personne est au-dessus de ses moyens, ben elle n'aura pas justement de fonds d'urgence, ou elle va avoir trouvé un au cas où, je prendrai l'argent là, mais les au cas où arrivent avec des belles ventes là, de marketing, où est-ce qu'on... Ouais. Le marketing est de plus en plus fort, c'est magnifique pour les ventes des entreprises, mais la personne en arrière de tout ça doit toujours se poser la question, est-ce que j'en ai réellement besoin et est-ce que je suis capable de me le payer? Mm-hmm. Donc, il y a des petites questions qui doivent se poser.
Puis on ne parle pas des marges de crédit, des taux d'intérêt sur les cartes de crédit.
Exactement. On en a déjà parlé aussi de ça hein, dans des chroniques précédentes que vous pouvez 18, retrouver. Oui, c'est ça. Faut écouter régulièrement, Frédéric, parce que des petites chroniques de 15-20 minutes, là, hein, on n'a pas le temps de tout dire. Oui.
On sème des graines, c'est des sujets particuliers, mais ça vient de faire un jardin magnifique avec
oui.
ça.
Oui, puis tu sais, on parle du bilan, puis souvent on s'imagine le produit final, là, hein, le papier bilan à la fin, que c'est ça qui est le plus important. Mais moi, j'ai envie de vous dire, là, encore une fois, c'est le processus que vous allez prendre pour l'établir, ce fameux bilan-là. C'est très utile ce que vous allez apprendre dans ce parcours de cheminement-là, de faire votre bilan. Parce que là, vous voulez atteindre vos objectifs, ça c'est clair, hein? Mais vous allez apprendre c'est quoi vos limitations, hein? C'est quoi vos peurs. C'est quoi les croyances que vous avez derrière ça quand vous faites votre bilan? Il y a plein d'affaires qui vont ressurgir. Tu sais, je vous parle en connaissance de cause, moi. J'en fais encore un budget. Je le suis moins qu'avant. Quand j'avais une grande famille puis tout ce beau monde-là était à ma charge, c'était à toutes les semaines. J'étais très, très assidue. Là, maintenant, je suis où je m'en vais, je suis tout seul. Tu sais, les impondérables, tout ça, tout est moindre. Donc, ça va quand même bien pour ce côté-là. D'où Frédéric, ce qu'il disait tout à l'heure, hein, ça, la fréquence, ça dépend de ce qu'on vit, de nos besoins également. Donc, je me reconnais là-dedans, Frédéric. Donc, je pense que nos auditeurs aussi se reconnaissent. Et je veux te dire, Frédéric, une chose que tu ne sais pas. Récemment, j'ai suivi un cours en finances personnelles pour tous à l'Université McGill. Et je veux en parler aux auditeurs parce que je m'étais pris quelques notes. Frédéric allait nous parler du budget hein, et je voulais voir... ce qui était dans les tendances. Hein. Des fois, je me documente. Hein. Je prends pas pour acquis. Puis on le dit ici à Vente fraîcheur, même d'entrée de jeu, quand on fait l'introduction, prenez pas tout pour acquis ce qu'on vous dit. Faites des expérimentations. Voyez par vous-même. Bien là, ça perd l'hypolpette. Avec ce cours en finance-là et les notes que je m'étais prises, Frédéric, c'est presque la même chose, mais en d'autres mots, ce que tu nous apportes. Donc, c'est de qualité universitaire ce que tu nous as livré ce matin, Frédéric. Et je suis bien contente d'avoir ce genre de qualité-là à l'émission Vente fraîcheur. Oui.
On ne prend pas de l'argent en cash, c'est le cas de le dire.
Oui. Wow. Et une citation qui a été dite dans cette formation-là et que j'ai notée, c'est « Lorsque vous établissez un budget, l'objectif est de vous occuper de la personne que vous êtes aujourd'hui et de celle que vous serez plus tard d'un point de vue financier. » Je trouvais ça beau. Puis tu l'as dit dans le courant de ta chronique d'aujourd'hui, hein? En d'autres mots, mais c'est vraiment ça. Malheureusement, vous savez, je suis complètement imparfaite, hein? Ou parfaitement imparfaite, prenez le mot que vous voulez, mais j'ai oublié de noter le nom du professeur qui nous a dit ça dans la formation. C'est un cours en finances personnelles pour tous qui est offert par l'Université McGill. Vous pouvez encore vous inscrire. Moi, je l'ai terminé cette semaine, la formation. Il y a 8 modules sur différents sujets. Donc, si ça peut vous intéresser, gang, pour vous aider avec vos finances, nous, on aime ça vous donner du gratuit. C'est ce qu'on fait en venant faire des chroniques avec vous autres également. Frédéric? Je sais que c'était pas prévu que je te fasse ce petit velours-là.
T'as sûrement senti les émotions.
T'es en train de savourer. Mais je dois le dire parce que c'est la réalité. Là. C'est ce que je constate, moi. Les auditeurs pourront aller le constater par eux-mêmes également. Est-ce que tu avais un mot de la fin pour conclure tout ça, mon cher?
Ça m'a enlevé les idées. je pense que le prochain mois, je veux parler un peu de ce que je veux mettre. Et là, je pourrais peut-être le mettre dans mon message marketing, c'est de niveau universitaire. je veux mettre vraiment sur une plateforme. Existe déjà des choses qui sont gratuites, mais là, je veux vraiment le mettre structuré dans une plateforme. Beaucoup de contenu et ça sera totalement gratuit de pouvoir venir. Le budget, ce que je viens de parler, sera là. Et il y aura d'autres sujets là, qui vont vraiment tout toucher des objectifs financiers, du bilan, budget et assurance. Je vais parler d'énormément de choses, du contenu que je vais me déposer sur une plateforme que je pourrai donner, parler la prochaine chronique et donner le lien pour que les gens puissent adhérer gratuitement.
Mmh. Et ils ont dit une statistique dans la formation. Je ne sais pas si on l'a déjà donné, cette statistique-là, avec toi, Frédéric. Il est estimé que seulement 50 % des Canadiens ont un budget. Donc, si vous n'en avez pas, là, vous n'êtes pas tout seul, gang. Puis si vous en avez un, vous n'êtes pas tout seul non plus. 50 %, je pensais honnêtement que ça serait moins que ça.
Moi ouais. aussi. Je n'ai parlé hier avec Stéphane, celui qui
de ça se passe, oui.
Et puis que j'avais pas fait la recherche de cette statistique-là.
Ouais,
je suis content de la connaître, oui.
Ouais, donc j'ai appris ça encore là, dans la belle formation. Hein. On apprend toujours, on apprend toute notre vie. Merci Frédéric Huon d'être celui que tu es et d'être de calibre universitaire. Merci, merci à toi pour le contenu aujourd'hui. On se revoit le mois prochain?
Oui.
Excellent. Donc, nous, après la pause, il est déjà en studio. Bonjour, Luc.
Bonjour.
On va parler avec toi de quelque chose de bien particulier, hein?
Oui.
Moi, je ne savais pas que ça existait jusqu'à ce que tu m'en parles. Donc, reste
avec
nous.
On le découvre à tous les jours.
Que oui, on découvre des choses à tous les jours. On apprend à tous les jours. Puis, à quelque part, là, j'ai la conviction que c'est la journée qu'on n'apprend plus rien, qu'on découvre rien, que c'est la dernière de notre vie.
Même que celui qui ne pose jamais de questions, il n'y a pas plus stupide que celui qui ne pose jamais de questions.
C'est pas toujours évident de s'affirmer.
D'un point de vue, mais bon, oui. Ça peut un peu draconien comme terme, mais ça dit ce que ça veut dire.
Ça dit ce que ça veut dire. On continue notre discussion après la pause, Luc?
D'accord.
Cette solution piscine.com. Les classiques hip-hop, c'est à l'Alternative Radio.
L'Alternative Radio.
Avant de passer à notre prochain invité, on va rejoindre Alain Perron qui anime les hits du vendredi et les hits du samedi avec Lynn Dubois. Alain, t'es à quel endroit qu'on peut te trouver aujourd'hui?
Lévis, la gym, 47-50, devant Guillaume Couture à Lévis. Ça n'a pas l'air de ça, une journée ensoleillée, mais par contre, il va y en avoir plein qui s'en viennent. Alors, on vous invite à venir faire un tour et voir tout notre inventaire. Regarde, on en a comme pas à peu près. Et on vous offre chez Trévis la possibilité de louer votre spa. C'est la même formule que, c'est pas compliqué, même formule qu'un peu une location de voiture, si on veut, une valeur de rachat à la fin qui est moindre, elle est vraiment pas grosse. Je vous explique en détail. Vous pouvez louer votre spa Lotus à seulement 34,71 par mois, par semaine, pardon. Donc, cet objectif-là, c'est pas compliqué, moins de 35 par semaine, vous avez votre spa sur une location de 60 mois, donc 5 ans. On a une possibilité aussi de louer le spa sur 36, 48, et comme j'ai mentionné, 60 mois. Donc ça, ça vous appartient. À la fin de la location sur un 5 ans, il reste environ 1 500 $ maximum. Alors, vous avez profité de votre spa pendant ces années, le meilleur du spa, et il est vraiment là dans les premières années, même si avec un produit de qualité, ça dure longtemps, on le sait. Mais ça veut, si vous voulez un nouveau modèle, quoi que ce soit, bien, ça fait une alternative. Donc, en plus, on a 0 % en location, imaginez. Donc, vous n'avez aucune raison de ne pas louer ce spa. Et bien, si vous aimez mieux acheter, c'est pas compliqué également. On a des plans de financement sur place à des taux hyper compétitifs. Vous venez faire un tour, on vous parle comme je disais tantôt, chez Trévis Lévis, CGMB sur place.
Et hey, puis Alain, en plus de ça, on vient de parler d'établir son budget avec mon dernier invité, Frédéric Huon. Donc, c'est possible de rentrer ça, une dépense de spa là-dedans. Hein? Puis en plus de faire ce qu'Alain vous dit, la location va vous en rester. Vous avez le temps de ramasser vos sous si vous préparez votre objectif correctement puis vous montez votre budget. Alain, c'est génial. Merci.
Super.
On se reparle tantôt.
Oui, avec d'autres spéciaux Trévis.
D'abord. Oh, yes! Oh! Ça donne le goût d'aller chez Trévis, là. Hein? Mais nous, on n'ira pas chez Trévis, on va passer en direct sur Facebook en même temps. Et on va plutôt jaser de la folie au pouvoir d'agir avec la troupe École de théâtre Les Merveilleuses Têtes Heureuses qui est représentée aujourd'hui par Luc Vigneault, vice-président.
Bonjour.
Bonjour, Luc, ça va bien?
Ça va très bien, hein?
Oui, très bien, merci. Qu'est-ce que c'est ça, Les Merveilleuses Têtes Heureuses?
Les Merveilleuses Têtes Heureuses, ben, pour faire différent d'une troupe de théâtre qui était établie au Saguenay, qui portait le même nom, qui s'appelait Les Têtes Heureuses, mais le fondateur, Louis-François Gagné, de regretter mémoire, avait ajouté le mot merveilleuse, tête heureuse, comme pour dire que la folie, c'est comme merveilleux et que ça permet de passer de la folie, justement, au pouvoir d'agir sur nos vies, comme je le dis souvent, comme il le dit souvent dans le texte original, qui est, quand il jouait le rôle que je joue aujourd'hui dans la pièce qu'on fait rouler depuis 15 ans, parle pas de ça.
Parle pas de ça. Donc là, une pièce de théâtre qui a été créée par cette troupe de théâtre.
C'est ça, c'est une création collective.
OK.
Louis-François a pris des notes pour créer les dialogues, tout ça. Et c'est en équipe qu'ils l'ont fait. Je ne faisais pas partie de la troupe à ce moment-là, mais je connaissais Louis-François pour l'avoir croisé à quelques reprises. Et Louis-François, bon, comme je l'ai dit, il est décédé depuis. Mm-hmm. Et hélas, ben, ça a été un choc pour la troupe parce qu'on devait aller la troupe devait aller faire une tournée en France. Il était déjà rendu là-bas quelques semaines avant. Et une semaine avant la première en France, je ne me souviens plus où exactement, en France, on a appris son décès.
Oh.
Ouais.
Il y a plusieurs années de ça?
Je pense que c'était en 2009, sauf erreur, là, je pense que Lucie Tardif, qui est la plus ancienne de la troupe, pourrait me corriger à cet effet.
OK. Donc, ça fait déjà quelques années, mais on le sait, et c'est drôle parce que la chronique qui va suivre, ça va être comment se reconstruire après un choc. Donc, tu viens de me faire une petite introduction à la prochaine chronique. Il se passe des choses fabuleuses comme ça ici à l'émission Vente fraîcheur. Moi, j'invite des gens, je les reçois, je ne sais pas quel lien, il n'y a pas nécessairement de lien entre les chroniqueurs, entre les chroniques, puis tout d'un coup, oups, par la magie, ça l'arrive. Et vous êtes un organisme sans but lucratif.
Exact, un OSBL.
Oui. Donc, la mission de cette OSBL-là, c'est quoi?
La mission de cette OSBL-là, c'est, on se définit comme étant le théâtre de la différence. Bon, notre pain, notre beurre de base, c'est la santé mentale, c'est sûr. C'est les enjeux de santé mentale. C'est le moteur de la pièce, ça parle pas de ça. C'est aussi le moteur de notre troupe. Mais c'est d'abord et avant tout d'être le plus inclusif possible dans notre discours pour ne pas faire subir aux autres ce qu'on subit nous-mêmes. Quand je dis nous, c'est les personnes de la troupe qui sont pour la plupart... J'aime pas ce vilain mot « diagnostiquer ». Il y a d'autres enjeux qui s'entremêlent avec la santé mentale, c'est-à-dire les enjeux de solitude, d'isolement, de pauvreté. On parlait tout à l'heure de finances, de pauvreté. Quand on se retrouve à la rue, soit à l'hébergement Saint-Luc, à l'Aubrivière, comme ça a été mon cas, en pleine crise du logement, ben, on sait qu'est-ce que c'est de subvenir à ses besoins primaire de base. Alors, ça a un enjeu, ça a un impact non négligeable sur les enjeux de santé mentale et c'est regrettable à dire, mais c'est ça.
Luc, est-ce qu'on doit comprendre que les comédiens ou les gens qui s'impliquent auprès de la troupe École de théâtre Les Merveilleuses Têtes Heureuses sont tous des gens diagnostiqués, comme tu as dit, d'une maladie mentale quelconque?
Sont diagnostiqués, oui, mais s'il y en a qui ne sont pas diagnostiqués, j'aimerais ça qu'ils lèvent la main, là, parce que soit qu'ils se cachent bien dans son placard, là, ou il ne veut pas sortir de son placard, c'est son choix, c'est bien correct,
okay.
C'est bien correct comme
mais
ça.
Mais c'est un prérequis pour faire partie de votre grande famille?
C'est un atout, je dirais, mais pas comme un prérequis absolu.
En quoi est-ce un atout?
C'est un atout parce que on sait de quoi on parle. Quand on dit « parle pas de ça », on a une phrase récurrente dans la pièce qui revient à peu près une vingtaine de fois dans la pièce « parle pas de ça ». Quand t'es pas dedans, tu peux pas comprendre. Et nous, notre but, par le biais du théâtre, c'est, comme le disait la thématique de l'entrevue, c'est de partir de la folie pour se réapproprier notre pouvoir d'agir sur nos vies en tant que comédien de la troupe, en tant que membre de la troupe, mais aussi, d'abord et avant tout, de, comment dire, de partager cette belle folie-là et de partager aussi les, comment dire, les impacts que cette folie-là a double sens, parce que c'est notre folie, mais il y a aussi la folie de ceux qui ne sont pas diagnostiqués comme tels. C'est-à-dire que ceux qui ne pensent pas être avoir les prérequis pour être diagnostiqués comme tels, qui se disent bon, la santé mentale, les enjeux de santé mentale, ça concerne juste ceux que ça concerne. Nous, on est du monde dit normal. On n'est pas concerné par ça. On n'est pas concerné. Ben, c'est de les sensibiliser à ça, finalement.
OK. Donc, votre objectif, c'est de sortir des stigmatisations, des préjugés, et exact. Non d'en créer, puis de vous mettre dans une boîte, puis dire « Hey, vous êtes fous, c'est pour ça que vous êtes ici. »
C'est ça. Et de leur exposer avec un minimum de pédagogie, ne pas leur faire la morale, mais d'abord et avant tout de leur expliquer afin de démystifier et en ultime ressort déstigmatiser les enjeux de santé mentale. Dire qu'il y a autre chose que, par exemple, de la criminalité, ce qui revient souvent à la surface quand on entend parler d'enjeux de santé mentale, on dit criminel, on dit fou dangereux, et il y en a même qui vont jusqu'à dire, lui, s'il touche à ma famille, là, 3 balles dans le corps, puis c'est réglé. Je me dis, hey, wow, minute.
Ouf,
là.
C'est lourd.
C'est ça. J'ai vu ça sur mon Facebook au lendemain de l'Halloween 2020 à Québec. Là. J'avais publié un article d'opinion dans Le Soleil, sous mon nom, évidemment. Et finalement, ben, avant que cet article soit publié, je lisais tout ce qui se disait à propos de cet événement malheureux, on va le dire, mais qui ne doit pas être, dont la responsabilité ne doit pas peser sur les épaules de ceux qui sont directement impliqués. C'est parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à se reprocher, mais qui, en ultime ressort, qui ne sont pas vraiment, comment dire, qui ne sont pas vraiment concernés par cet événement, on va dire, isolé. C'est malheureux à dire, mais c'est isolé, c'est un cas isolé. Ce n'est pas une généralité qu'il faut appliquer uniformément à tous ceux qui vivent des enjeux de santé mentale.
Vous êtes une équipe de combien de personnes? Est-ce qu'il y a encore place pour accueillir des nouveaux membres qui voudraient s'impliquer et jouer du théâtre ou apprendre les rudiments? Ou...
Ouais. On a de la place en masse. Comme on dit, on est inclusif. On connaît le vieil adage, plus on est de fou, plus on rit, sans être péjoratif. Là.
Sans c'est être pas moi qui l'ai dit, hein? C'est Luc Vigneault lui-même, oui, je tiens à le souligner. Venez pas nous lancer des tomates à la sortie, là, hein?
Non, et ne venez pas de commentaires de bêtises sur le Facebook de l'émission. Non, mais sérieux, tout ça pour dire que c'est une belle folie, dans le fond. Parce que la folie n'est que ce que l'on en perçoit de l'extérieur. Si on se laisse influencer par tout ce que ce que j'appelle souvent les rumeurs venant de l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, ben c'est comme le jeu du téléphone arabe. Il y a un message qui part intact au bout de la chaîne, et à l'autre bout de la chaîne, ça sort tout croche. Ça, c'est de la désinformation, ça aussi.
Mm-hmm. Donc, vous acceptez de nouveaux membres? S'il y a des gens qui veulent se joindre à votre troupe, vous êtes combien actuellement?
On est environ une dizaine de comédiens qui ne jouent pas tous dans la pièce, parce qu'on est rendu à 4 comédiens. Il y a un cinquième qui est d'habitude d'être avec nous autres. Ben, à l'époque de Louis-François, on était 7. Et quand je dis on, excuse la personne qui parle. On était 7. Ensuite, ça a tombé à 6, selon les disponibilités des gens, selon le désir de continuer, selon toutes sortes de facteurs impondérables qui peuvent arriver, des enjeux de santé mentale un peu plus graves, un peu plus pointus, qui nécessitent des soins, qui nécessitent un absentéisme plus ou moins prolongé, qui fera en sorte que ça tient des personnes à l'écart. C'est déjà arrivé, j'en ai déjà été témoin. Et puis, on vit avec ça, on essaie de composer avec ça, mais ça nous prendrait du 109.
OK, donc c'est en tant que... Si t'es une personne, ça part bien, le premier critère, être une personne vivant ou ayant vécu des problématiques de santé mentale, puis qui est intéressée par la cause du rétablissement, c'est ce que j'entends en
tout
même temps. Quel âge on doit avoir pour vous approcher?
Il n'y a pas d'âge limite en autant qu'on ait la santé pour pouvoir monter sur scène, tant et aussi longtemps qu'on l'a.
C'est pour les adultes ou admettons qu'il y aurait des ados qui voudraient participer ou c'est
des ados genre à peu près 16 ans et plus, on pourrait les accepter. Okay. Mais en fait, on veut être le plus inclusif possible. Il n'y a pas de limite d'âge. Okay. C'est sûr que, mettons par exemple, si un enfant de 5 ans qui lève la main, qui dit « ben là, j'ai été diagnostiqué », ben là, je dis « écoute, mon petit bonhomme, est-ce que tu es vraiment conscient de ce que tu parles? » Bon. À 5 ans, on peut avoir une intelligence précoce, ça a été mon cas, mais de là à dire, est-ce que je sens qu'on a des diagnostics? Mm-hmm. Parce que c'est l'importance des parents et des enfants de communiquer ensemble pour que les enfants puissent verbaliser leurs émotions et verbaliser leurs mots, M-A-U-X, en mots M-O-T-S.
Okay. Donc, s'il y a des gens à l'écoute qui sont intéressés à joindre la troupe de théâtre, les merveilleuses têtes heureuses, c'est bien ça, hein? Je ne dis pas de niaiserie, moi, là. Hein?
Non.
Qu'est-ce qu'ils doivent faire, ces personnes-là?
Ce qu'ils doivent faire, c'est qu'ils doivent nous contacter. Ils doivent aller sur notre page Facebook. Notre site web est en reconstruction.
OK.
Tout comme la troupe l'est un peu dans une certaine façon, parce que, comme je l'ai dit, on manque de 109. Et aussi, on parlait de finances tantôt, on manque d'argent. Parce que 2 ans de pandémie pour une troupe de théâtre, on n'est pas comme
ça
le Trident, comme le Jean Duceppe et le Théâtre du Nouveau Monde et tout ça. On n'est pas subventionné, donc on n'a pas droit à ces remboursements gouvernementaux. Là.
OK. Donc là, le financement se fait comment? Est-ce que ce sont les membres qui financent la troupe?
Bien, on le fait bénévolement à la base.
OK.
Bon, ça, c'est déjà un acquis. Il faut donner du temps pour ça. Et il y en a qui ont décidé de quitter, bon, parce qu'ils ne pouvaient plus donner de temps par rapport au très peu de, en termes pécuniaires que ça rapporte. C'est correct, là. Je veux dire, il n'y aura aucun trouble avec ça. Sauf que c'est bien dommage parce que là encore, l'argent demeure le nerf de la guerre.
Mm-hmm.
Et on essaie de surtout financer par des sources de financement parce qu'on va chercher un montant forfaitaire à chaque représentation qu'on donne, soit dans des institutions comme par exemple des écoles. Je pense au Collège Mérici, on va souvent pour les groupes d'intervention sociale, d'élèves en intervention sociale, mm-hmm. pour les contribuer à leur formation. On pense peut-être regarder du côté de l'Université Laval dans la même branche en intervention sociale ou en psychologie ou en psychiatrie. Et on a plein de plans en tête, on a plein d'idées en tête, sauf que c'est la logistique, c'est la volonté, c'est l'argent qui...
Ça prendrait des bénévoles dédiés à la recherche de fonds, c'est ce que je comprends.
Exact.
Est-ce que vous acceptez les dons du public?
On pourrait les accepter. Comme on dit, passer le chapeau à l'église. Bon, ce qu'on appelle les contributions volontaires en termes de théâtre.
OK. Et comment on fait pour contribuer volontairement à votre troupe de théâtre?
Ce qu'on peut, on peut contribuer volontairement par toutes les sources de financement possibles. On peut aller sur des plateformes de financement comme la troupe de théâtre. Bon, on a une adresse de courriel que je ne connais pas par cœur, là, malheureusement. Mais on a une adresse de courriel. On peut faire une recherche Google. On peut facilement trouver.
Moi, j'en ai une ici, les merveilleuses têtes heureuses, tout écrit ensemble, tout ça, hein, chaque mot au pluriel, @gmail.com.
Exact.
C'est une adresse que j'ai trouvée sur 211-québecrégion.ca.
Voilà, exact.
Donc, si vous appelez au 211, ils vont pouvoir également vous aider à arriver à un membre, Jacques. Oh, je t'appelle Jacques maintenant.
Bon, Luc Jean
bon,
Vigneault,
hein? Oui.
Ben, moi, c'est Luc Jean Vigneault pour mon parrain. Voilà. Pour me différencier de l'autre Luc Vigneault en santé mentale.
Oui, c'est ça. Si vous allez sur Facebook, c'est Luc J. Vigneault, je crois, hein, pour te retrouver.
Ben, c'est Luc J. Vigneault, roman et poésie pour mes œuvres littéraires.
Oui.
Mais par contre, Luc Vigneault, entre parenthèses, Luc J. Vigneault, sur Facebook, on peut me trouver facilement.
OK. Donc, si jamais, des fois, parce qu'on t'a entendu à la radio, c'est plus facile de rentrer par toi. Hey, je t'ai entendu à la radio. Ça permet aux gens de faire un premier contact qui ont déjà l'impression de te connaître quand tu viens à la radio par la suite.
Ouais.
Et Luc, oui, tu parles de différentes choses. Qu'est-ce que la troupe de théâtre, c'est une seule pièce de théâtre ou c'est plusieurs pièces?
Ce n'est pas qu'une pièce de théâtre. On n'essaie pas de se contenter d'une seule pièce de théâtre en s'assoyant sur nos lauriers. C'est-à-dire, ça prend de la créativité quelque part. Oui, par rapport à ça, va demeurer notre moteur tout au long, tout le temps et aussi longtemps que la troupe existera. Mais on peut greffer d'autres projets à des analogues ou similaires à part pas de ça, qui s'inscrivent dans la veine de la lutte à la stigmatisation en santé mentale. Moi, je l'ai fait dans une certaine mesure. On a fait une lecture publique d'une pièce de théâtre que j'ai écrite, qui s'intitule « Le pouvoir d'intimider », qui est en fait une métaphore judiciaire de l'intimidation, où est-ce qu'on parle beaucoup de santé mentale. On l'a fait avec la troupe, cette lecture publique, cherche le nom... dans la côte d'Abraham. Là,
oh!
Excuse-moi.
C'est pas grave.
Vous avez Méduse, le groupe Méduse.
Okay.
Le projet Méduse, complexe Méduse, voilà, excuse-moi. Okay. Non, désolé pour le blanc. Au projet Méduse, au complexe Méduse, pardon. Et on l'a même présenté en hybride, en virtuel et en présentiel, en pleine pandémie, en 11 septembre 2021. Si ça te sonne une cloche, je te le donne en mille. C'était le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre. J'ai écrit, monté, mis en scène, joué dans ce spectacle-là et même chanté dans ce spectacle-là parce que c'est multidisciplinaire. On a monté un spectacle pour les 20 ans du 11 septembre.
Mmh.
Alors, c'est des projets comme ça. Et s'il y en a qui ont des projets qui veulent les mettre en application... avec la troupe qui se joignent à nous, vous êtes les bienvenus.
C'est ça que j'allais dire. On peut vous inviter à aller faire une présentation à quelque part.
Exact.
Donc, même moyen de communication, hein? Vous allez...
Et si vous êtes intéressé à ce qu'on vienne faire une représentation chez vous, vous êtes un organisme, quel qu'il soit, une institution, quelle qu'elle soit, contactez-nous. Ça va nous faire un grand plaisir de vous satisfaire.
Excellent. Donc, on rappelle comment faire pour vous rejoindre, pour que ce soit facile?
L'adresse de courriel, lesmerveilleusestêtesheureuses, tout en un mot, @gmail.com, où on peut me contacter directement ou contacter n'importe quel autre membre de la troupe de théâtre. Mais comme je suis représentant, porte-parole en ce moment même, on peut me contacter directement à mon téléphone cellulaire 581-986-6509.
Parfait. Donc, ceux qui ont manqué un bout, vous pouvez toujours réécouter les podcasts qui sont disponibles sur toutes les plateformes numériques. Vous pouvez réécouter, partager également, en parler. La santé mentale, c'est un enjeu qui peut nous toucher n'importe quand.
Et n'importe qui.
N'importe quand, n'importe qui. J'ai envie de dire n'importe où. Ça arrive probablement au moment où on s'en... n'attend le moins.
Oui, n'importe où, dans n'importe quel contexte aussi. Là.
Oui, c'est ça. Ouais. Hein, la santé mentale, c'est précieux, notre santé mentale. Sans notre santé mentale, on vit différemment. On a plus de difficultés. Les gens nous perçoivent différemment également. Il vient un paquet de choses suite à ça. Vous travaillez très fort avec la troupe de théâtre pour déstigmatiser le tout.
On n'a qu'une seule santé mentale et on doit en prendre soin. On doit la gérer.
Oui, oui, oui. Mais en terminant, je sais que tu as écrit des livres, oui. Luc. Tu veux en glisser un mot rapidement?
Oui, rapidement. Ces mots qui blessent, on va le montrer pour ceux qui voient dans le StreamYard, dans le podcast. Ces mots qui blessent, M-O-T-S, entre parenthèses, M-A-U-X, qui est aux éditions Enoya. Oui. Pas loin d'ici, à Charny.
Oui.
Alors,
avec Gwen.
Avec Gwen Bobby, oui, oui. Effectivement, oui. Alors, on peut me contacter directement par courriel au lucjvigne49@gmail.com ou me contacter au numéro de téléphone que j'ai laissé précédemment.
Génial. Y a-t-il un deuxième livre en écriture?
Non, il y en a d'autres comme celui-ci, mais bon, je pourrais vous en faire la nomenclature de vive voix.
Oh, génial. Donc, communiquez avec Luc Vigneault si vous voulez en savoir plus, ma belle gang. Il était là en tant que VP de la de l'école de théâtre.
Les merveilleuses fêtes.
De théâtre, c'est ça. Les merveilleuses fêtes heureuses. Donc, merci beaucoup, Luc, d'être passé à l'émission Vente fraîcheur.
C'est moi qui te remercie, Manon.
Au plaisir. Merci. Après la pause, c'est moi qui vais vous entretenir sur comment traverser les chocs qui vous arrivent dans votre vie. Donc, restez avec nous. Ça va être intéressant, ça aussi. Je vais vous faire une courte chronique à cet effet-là. À tout de suite.
Talk, rock and hip-hop. Il est vendredi, samedi, la meilleure musique dance, house, électro, pop. 96.9.
Donc vous prenez votre truite par la queue et avec votre main gauche, vous venez masser bien avec le jarret de porc, là. Et que ça sente bien la sauce.
Je suis en train de me demander si j'aime vraiment ça, le chocolat.
Ouais, mais c'est envahissant, hein? On dirait. Ouais, c'est comme, ça fait comme une genre de membrane dans le fond de ta gorge, hein? Comme
un chocolat suisse, peut-être avec des petits animaux, ça.
Mmh, des petits, ouais, des suisses.
Des animaux roux.
Chocolat des bois. Le deux qui viennent les noix. Qui mettent dans
la sauce.
Ouais, c'est ça.
La sauce.
Tous les dimanches de 9h à 11h.
Parce que c'est bio.
783-clôtureterrien.com.
Sur Facebook. Sur YouTube. Sur TikTok. CGND 96.9.
Allô, allô, Alain?
Oui, absolument. Écoute, on doit vous dire que les installations de piscine pour juin, c'est encore possible. Donc, juin s'en vient quand même relativement vite. Vous venez faire un tour ici chez Prairie, vous prenez rendez-vous ou simplement vous contacter par téléphone ou encore par web. Il y a plusieurs alternatives disponibles pour vous. L'important, c'est de choisir la bonne et celle qui s'adapte le mieux à vos besoins. On a également la possibilité d'aller chez vous ouvrir votre piscine. On l'a dit tantôt. Ça, c'est plus point de vue technique avec nos techniciens vraiment professionnels. Et on a des deals vraiment exceptionnels. On a le spa nouvelle gamme Lotus qui est offert à moins de 35 $ par semaine sur une location 60 mois, donc 5 ans à avoir votre spa. Et au bout du 5 ans, il recevrait une valeur résiduelle de 1000 à 1500 $ selon le modèle. Ça vaut vraiment, mais vraiment la peine. À cela, bien évidemment, l'installation est comprise et tout est compris et le taux de financement en location est à 0%. Donc, c'est vraiment une alternative exceptionnel pour louer et ensuite racheter votre spa ou encore au bout de la location 3, 4 et 5 ans de rapporter votre spa chez Privy. Et il débarque à nouveau avec un nouveau modèle de spa. Ça se fait également. Il y a plusieurs personnes qui le font et on vous rappelle que cette location de spa est vraiment une formule tout inclus, donc une formule sans souci, sans tracas. Tout ça et beaucoup plus encore vous attend. Venez faire un tour chez Prévy, Lévy, au 4750 boulevard Guillaume Couture, CGMD 96.9 et sur place.
Yes! Bonne journée! Salutations à toute l'équipe de Trévy et aux auditeurs qui se rendront dire bonjour à Alain.
Yes!
À la prochaine, Alain!
Bye, merci!
Donc, c'était Alain Perron qui anime les hits du samedi et du vendredi avec Lynn Dubois, sa douce amoureuse, sa douce fiancée même, hein, il le dit sur les réseaux sociaux, donc je peux me permettre de le dire moi aussi. Ils font une équipe du tonnerre sérieusement ensemble. Donc, allez lui dire un petit coucou à Alain. Hein, le fils. Écoutez-le aussi le vendredi soir et le samedi soir. Il va vous faire danser un brin. Je passe en direct sur Facebook. Parce que là, moi, je suis contente. Je me suis gardé un petit temps d'antenne. Je suis ravie de venir vous en parler. C'est un sujet qui est personnel, mais qui est également un sujet universel. Ça touche tout le monde. Comment se reconstruire après un choc? Ouais. Ceux qui ne me connaissent pas, ben, je suis Manon Poulin, experte en reconstruction de l'âme. Je suis également coach en psychologie positive. J'aide principalement les femmes soumises à s'affirmer fermement avec sans culpabilité, j'allais dire, c'est mal dit, hein, et sans culpabilité plutôt. Ceci étant dit, j'ai quand même des hommes qui font appel à mes services. J'ai des hommes qui viennent à mes conférences, à mes ateliers conférences. J'ai des hommes qui viennent en coaching également. Je ne prends pas tout le monde. Je choisis la clientèle avec qui je travaille. Donc, vous êtes des privilégiés si je vous accepte parmi mes clients. Je travaille avec un nombre restreint en one-on-one pendant une année, hein, parce que je vise la qualité. Oui, c'est ça. Je vise la qualité. Et là, aujourd'hui, ce sujet-là, Je sais qu'il va vous toucher, probablement. Je veux juste que vous vous imaginiez. On va se mettre dans le bain un petit peu, là. Imaginez-vous pour un instant, là, que vous êtes confronté à une situation comme la fin d'une relation amoureuse, la perte d'un emploi ou d'une opportunité professionnelle, un échec dans un projet personnel ou professionnel. Il y a peut-être la maladie aussi, ou la perte d'un être cher qui est là. Ou encore une transition de vie. Oui, parce que ça aussi, hein, la maternité, c'est une transition de vie. La ménopause est une transition de vie. Un déménagement, c'est une transition de vie également. Il peut y avoir d'autres transitions de vie. Je ne peux pas toutes les nommer parce que je passerai ma petite chronique à ne vous parler que de ça. Mais imaginez-vous un instant là, que vous êtes confronté à quelque chose comme ça. Et quand cette annonce-là survient, là, c'est comme un gros choc. C'est vraiment un véritable choc que j'ai envie de dire. Hein, on est soudainement plongé, là. C'est comme si on partait, admettons qu'on est très de bonne humeur, là. Bien, soudainement, on est plongé dans une période là, où on ressent de la trahison, on ressent tout plein d'émotions qu'on ne comprend pas nécessairement. Parfois, c'est même une espèce de blackout, comme on dit. Hein? C'est le noir total qui s'installe en dedans de nous. Face à ce choc-là, là, je veux juste vous rappeler que c'est pas le choc qui vous définit. C'est vraiment comment vous autres, vous allez choisir de réagir face à cet échec-là, parce que vous allez trouver que c'est un échec, parce que vous allez trouver que c'est une perte, parce que vous allez trouver que c'est un problème qui est, ouf, hein, un problème qui est lourd. Mais vous n'êtes pas toute seule. Rappelez-vous de ça également. Vous n'êtes pas toute seule. Et quand on est une femme, hein, parce que j'accompagne principalement les femmes, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis également une femme, donc je suis peut-être plus en mesure, hein, de comprendre les femmes. Bien, quand on est une femme puis qu'on est face à la perte de quelque chose comme ça, on doit vraiment apprendre à faire son deuil. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous a échappé. On vit du désarroi. On, sans s'en rendre compte, parce que sur le coup, hein, on est vraiment démunis, on ne sait pas, mais cet événement-là va être transformateur. Vraiment. Et nous, les femmes, on a tendance à être déstabilisées par tout ça parce qu'on est des êtres émotionnels. Hein? Oui, on est des êtres émotionnels. Et il peut y avoir des émotions vraiment d'épuisement au travers de tout ça. Parce que ce sont des changements qui sont non désirés. Mais je vous le répète, ça va vous apporter une transformation profonde. Et vous allez passer par différentes phases au travers de tout ça. Et les différentes phases, moi, je vais vous en nommer 5 phases. Dans ces différentes phases-là, peut-être que vous allez les passer très, très rapidement de une à l'autre, puis pouf, le processus va être terminé, on n'en parle plus. Pour d'autres personnes, ça va peut-être durer une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est différent pour chaque personne. Donc, moi, je vous invite encore là à mettre de la bienveillance envers vous autres, si vous êtes dans ces processus-là. Parce que je sais que vous allez en ressortir grandi. Vous allez être gagnant au final. Et les cinq étapes, si vous voulez, dans ce processus de deuil-là, il y a comme 5 étapes. Il y a le déni, la colère, la tristesse, l'acceptation. Et ensuite, il y a la reconstruction là. Et ça vous amène vraiment sur le chemin de la résilience et de la croissance personnelle, là, je vous le dis. Je vais rentrer un petit peu plus en détail dans chacune des étapes. Le déni, moi, j'appelle ça une réaction défensive. C'est un moyen qu'on a mis en place pour échapper à la souffrance qui est insupportable suite au choc émotionnel qu'on a eu. C'est pourquoi qu'on va souvent réagir en disant des choses comme « Ouf, c'est une blague, c'est impossible, c'est pas vrai, j'y crois pas, ça se peut pas. Hein? » On est dans le déni totalement. Quand on passe à la deuxième phase, là, on passe à la phase de la colère. La colère, là, c'est vraiment une émotion qui nous submerge lorsqu'on est confronté et qu'on réalise que c'est impossible, impossible de retourner en arrière. Et là, parfois, on a de la difficulté avec cette colère-là. On ne veut pas l'exprimer parce qu'on a aussi la croyance que ce n'est pas bon d'être en colère. On ne peut pas être en colère. On ne s'autorise pas à vivre notre colère. Et là, ben, on va peut-être dire aux gens que c'est de leur faute. Ouais. Hey, c'est de ta faute. Tu n'as jamais rien fait pour moi. Ouais, mais il est arrivé ça, c'est à cause de ça. Hein? C'est de la faute à d'autres. C'est à cause de les autres. Mais toi, tu y es pour rien, tu ne veux pas le voir. Tu es dans ta colère, dans ton émotion pure et dure. Quand tu réussis à passer cette colère-là, à l'affronter, tu tombes dans la tristesse. La tristesse, c'est vraiment un sentiment profond encore là. C'est encore plus profond que ta colère, que j'ai envie de dire. Parce que là, tu es dans une espèce de désespoir. Tu te sens tellement impuissante. Malgré tout ce que tu as tenté de faire, tu te sens impuissante. Tu n'es plus en mesure de voir la réalité telle qu'elle est, que j'ai envie de dire. Et là, tu vas vraiment tenir un discours, un langage du genre « Ah, oh, c'est pas juste. Mais pourquoi faire que c'est moi encore? Qu'est-ce que j'ai fait, ton bon Dieu? Hein? » Ou bien encore là, tu vas dire peut-être « Ah, oh, j'ai étouffé. » Puis tu vas te sentir étouffé aussi en disant que tu as tout fait. Que tu as tout fait. Qu'est-ce que je vais devenir? Hein? Tu es dans cette phase-là. Puis cette phase-là, c'est là que j'ai envie de vous faire une mise en garde. Parce que c'est souvent dans cette phase-là de tristesse qui peut se transformer en dépression. Donc moi, je vous invite vraiment, ma belle gang, à être bien entourée, à aller vous chercher de l'aide. Hein? Ensuite de ça vient la phase de l'acceptation. On accepte la perte de l'être cher. On accepte de ne pas avoir eu le poste qu'on convoitait. On accepte une séparation. On accepte notre ménopause. Bref, on accepte la perte, qu'elle soit physique, sociale ou professionnelle. Et ça permet là un retour progressif, vraiment, vers notre état émotionnel qu'on est habitué d'avoir. Donc, notre état habituel. Et là, on est capable de commencer à penser au bon moment qu'on a vécu avec la situation, par exemple, c'est la perte d'un être cher. On va être en mesure de penser au bon moment qu'on a vécu, mais également au moins bon. Donc là, on revient vraiment à la réalité, j'ai envie de dire, à une certaine réalité qu'on connaît. On retrouve un peu, et de plus en plus, hein, mais peu à peu, notre confiance en nous, notre goût de vivre. On a l'impression que l'avenir est un peu plus joyeuse. Hein? Puis là, notre discours, ça va être plus, « Ah ben, c'est la vie. J'y pense encore parfois, mais je m'en sors, c'est correct. » C'est plus ce genre de discours-là que la personne va tenir. Et vient finalement la phase numéro 5 que j'appelle la reconstruction de l'âme. Ben oui, c'est là que, encore là, c'est progressif. Hein? Ça ne vient pas comme ça en cliquant des doigts. Là. Mais c'est là qu'on prend conscience de ce qui arrive et qu'on est en mesure de se réorganiser pour répondre à nos besoins, aux besoins de nous-mêmes et à nos obligations également. On est capable de reconnaître qui on est, qu'est-ce qu'on a de besoin, c'est quoi qu'on veut, combien qu'on vaut également, hein, qu'on connaisse nos valeurs. Là, on reprend contact avec nous-mêmes et ben, il y a une plus grande paix qui s'installe également. Et là, vous avez des nouveaux projets. Vous avez envie de faire des nouvelles affaires. Vous vous sentez libre. Vous êtes en mesure d'harmoniser toute votre vie. Donc, ça serait ça, les cinq étapes, selon Manon Poulain, hein, bien entendu. Chacune de ces phases-là, là, c'est vraiment une opportunité pour que tu apprennes à te découvrir en tant qu'humain. C'est une opportunité pour que tu te réinventes, pour que tu renforces qui tu es. Je sais, ça a l'air simple peut-être, la façon que je vous apporte ça ce matin dans la chronique, mais sachez bien, gang, que le parcours, le chemin, il va être sinueux, hein? Mais il va vous amener dans un horizon de possibilités infinies. Vraiment, il va vous approcher encore plus de qui vous êtes, si vous vous autorisez à devenir qui vous êtes vraiment. Et j'ai envie de terminer là-dessus en vous disant, ben, si jamais vous traversez des moments similaires en ce moment, rappelez-vous, vous n'êtes pas toute seule. Je peux même vous accompagner, je peux être à vos côtés pour traverser cette épreuve-là. Je suis prête à vous écouter, je suis prête à vous soutenir à chacune des étapes du processus que je viens de vous parler là, qui est les étapes traditionnelles du processus du deuil. Fait que si tu as besoin de parler, tu as besoin de te confier, tu ne sais pas à qui, je peux t'aider. Je peux t'aider, si je peux t'aider d'une quelconque manière, fais-moi signe, écris-moi, appelle-moi, envoie-moi un texto, envoie-moi un messenger, ça va me faire plaisir. Je suis vraiment là pour ton mieux-être, pour t'accompagner. Donc, c'est ce qui fait, qui met fin à la chronique d'aujourd'hui, même à l'émission que j'ai envie de dire. On vous retrouve la semaine prochaine avec un autre vent de fraîcheur. Aujourd'hui à 15h, c'est notre dernier bingo. Et dans quelques instants, prennent place les technopreneurs. Merci d'être avec nous, la belle gang. C'est un plaisir d'être là avec vous. Bye!
Ah, du BRH sous la capuche. Vous êtes sur les ondes de 96.9 CJMD.
Téléchargez l'application.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, welcome to the Next Wave podcast. Consider us your chief AI officer in your business. My name is Matt Wolf. I have the number one YouTube channel in the AI space. I also run futuretools.com, and I'm joined by my co-host, Nathan Lands, founder of lore.com. We want to bring you the latest AI news and trends, show you how you can use AI in your business and personal life, and help make it super easy for you to understand and execute. We're going to equip you with the knowledge to thrive in this upcoming wave of change.